Bonsoir, province du Nord Kivu, la situation actuelle dans le territoire de Masisi risque de déboucher sur une guerre interethnique si elle n'est pas bien gérée. Déclaration ce mardi à Goma du gouverneur Julien Paluku. Par ailleurs, il qualifie la situation humanitaire au Nord Kivu de très préoccupante. 700 000 déplacés, dont 300 000 nouveaux dus à la guerre déclenchée par le M23. Comment analyser cette situation et quelles solutions y apporter? Pour en parler, nous recevons le gouverneur Julien Paluku Kaongia, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur le gouverneur, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste.
Professeur Bou Endoa Eluga Essi, politologue et professeur à l'ISC Uvira au Sud Kivu. Il est directeur du Centre de recherche et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Professeur Bou Endoa, bonsoir.
Bonsoir, cher Mini, bonsoir.
Professeur Philippe Bioya, politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Professeur Bioya, bonsoir.
Bonsoir.
Merci, chers auditeurs et internautes, pour vos réactions. Alvin Nzengu Mpongo. Toutes les deux pistes de solutions proposées par le gouverneur Julien Paluku sont bonnes, mais ce qui est important, c'est les mécanismes pouvant les mettre en exécution, et cela tout de suite. Gérard Kazingoufou de Beni au Nord Kivu, le seul remède serait l'imposition de la paix par l'État, car toute tentative de dialogue a toujours été fragilisée. Nous sommes mercredi 14 novembre 2012, merci de nous recevoir chez vous.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La situation actuelle dans le territoire de Masisi risque de déboucher sur une guerre interethnique si elle n'est pas bien gérée. Déclaration ce mardi à Goma du gouverneur Julien Paluku. C'était lors d'une communication à la presse à sa résidence officielle. D'autres questions d'ordre humanitaire, politique et économique ont été aussi évoquées par le gouverneur lors de ce face-à-face avec les médias. Denise Lukeso.
Nous risquons d'assister à une guerre interethnique entre les Hutus et les Hunde si ce dossier n'est pas bien géré, a déclaré le gouverneur. Julien Paluku propose quatre pistes de solutions comme voie de sortie des crises sécuritaires en province.
Le premier niveau pour moi, c'est l'arrestation de tous les criminels, c'est-à-dire Bosco Ntaganda, Makenga, Innocent Zimurinda, Innocent Kaina, Baudouin Ngaruye, Vianney Kazarama doit être arrêté. Par qui? C'est un autre débat. Deuxième volet de la solution, il faut la démobilisation des troupes par les responsables des communautés ethniques. Troisième piste de solution. Les quelques éléments qui vont être récupérés maintenant au CDM 23 doivent être envoyés dans les centres de rééducation. Le quatrième niveau, c'est la prise de conscience de nous fils et filles du Nord Kivu.
Par ailleurs, Julien Paluku qualifie la situation humanitaire au Nord Kivu de très préoccupante. 700 000 déplacés, dont 300 000 nouveaux dus à la guerre du M23. Il appelle à la solidarité internationale.
Nous voudrions en appeler à la solidarité internationale parce que depuis bientôt 3 mois, les déplacés n'ont pas accès aux vivres et aux non-vivres parce que les ONG, disent-elles, ont leur budget qui sont à la fin.
En ce qui concerne l'économie, Julien Paluku a déclaré que rien ne peut marcher dans un contexte de guerre. Goma, Denise Lukeso sur Radio Kapi.
Merci Denise Lukeso. Le gouvernement congolais se dit satisfait, mais pas totalement, des décisions prises par les Nations Unies et les États-Unis de sanctionner Sultani Makenga, le commandant de M23. Les avoirs de ce dernier sont gelés et il lui est interdit de voyager. Mais pour le gouvernement congolais, Sultani Makenga n'est qu'une marionnette et le vrai problème c'est le Rwanda. Écoutez Lambert Mende au micro d'Innocent Olinga.
Nous sommes partiellement satisfaits. C'est une bonne décision, c'est un bon point de départ. Mais comme moi, vous savez que lorsqu'on veut tuer un arbre malfaisant, ce n'est pas à travers ses feuilles ou ses fruits qu'on va réaliser cette œuvre. Je pense que c'est à la racine qu'il faut s'y prendre. Makenga n'est que fruit de cette action que le Rwanda a décidé d'entreprendre chez nous. Donc frapper Makenga, ce n'est pas détruire l'arbre de la déstabilisation du Nord Kivu. Il faut frapper les officiels rwandais qui sont cités dans le rapport des experts. Expressis verbis. Ce sont ces gens-là qu'il faut aussi frapper. Donc c'est un début. Nous croyons qu'il y aura une fin avec l'ensemble des personnes qui sont listées par les experts des Nations Unies.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous êtes gouverneur de la province du Nord Kivu. Nous risquons d'assister à une guerre interethnique entre les Hutus et les Hunde si ce dossier n'est pas bien géré, avez-vous déclaré. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le Massissi qui pourrait donner lieu à une guerre interethnique?
Oui, merci monsieur le journaliste. Je commence par saluer, comme d'habitude, le professeur Buendo, ainsi que le professeur Philippe Bioya, que je connais très très bien, mais également tous les auditeurs de la radio Capi qui sont nombreux, je sais, à suivre cette grande émission. C'est pas que c'est temps pour dire, parce que vous avez fait passer un reportage où je me suis prononcé clairement par rapport à la situation qui prévaut dans les territoires de Massissi. Tout part effectivement de la création du M23. Vous savez, les groupes armés ici au Nord Kivu se cristallisent autour des ethnies. Quand on voit les scènes de paix à l'époque, c'était des Tutsis. Les M23 aujourd'hui, ce sont des Tutsis. Quand on voit par exemple aujourd'hui les groupes de Nyatura, ce sont des Hutus. Les groupes des APCLS dans les massifs, ce sont des Hunde. Quand on voit les Maïmaï du côté nord, ce sont des Nande. C'est-à-dire, les groupes se forment autour de leurs ethnies. Et à la création du M23, effectivement, tout le monde a eu l'impression que on va refaire l'histoire. Parce que lorsque le CNDP a été créé et qu'il a été intégré, on a vu des Bouviers devenir des colonels et des majors. C'est ainsi que lorsque l'M23 a été créé, beaucoup d'autres communautés ont encore dit, voilà telle communauté qui serait des croquevilliers dans les Tchourous, et lorsqu'il y aura des négociations, on va encore voir des balayeurs, des charretiers, des bouviers devenir des colonels, des majors et commandés de bataillons. C'est ainsi que d'autres communautés aussi ont dit, c'est notre tour également d'aller autour des collines, de commencer aussi à faire pression, que le jour où les négociations vont arriver, que nous aussi nous puissions accéder à un certain nombre de postes. Maintenant, dans les massifs, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux communautés principales, à savoir la communauté Hutu, qui a son groupe armé qui s'appelle les Nyatura, et la communauté Hunde, qui a son groupe armé qui s'appelle les APCLS, et on assiste ces derniers temps à des provocations. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une personne Hutu qui meurt, les Hutus ont tendance à croire que cela a été le montage des Hunde pour des intérêts inavoués. Et inversement. Donc, des réflexions sont en train d'être cristallisées autour des ethnies, parce que les gens voient les intérêts demain autour des négociations qui sont en vue, et que si on ne cristallise pas ses positions autour de son ethnie, on n'aura pas droit au chapitre. Voilà pourquoi j'ai estimé qu'il faut que je fasse ce cri d'alarme pour signaler, alerter tout le pays. Et si effectivement, il n'y a pas une question du
gouverneur,
on risque d'arriver à une crise interethnique.
Monsieur le gouverneur, entre-temps, je vous prie, si vous êtes dans une salle, de bouger un tout petit peu, parce que la qualité de votre ligne a tendance à se dégrader, on vous capte un peu difficilement. Mais pourquoi vous tirez cette sonnette d'alarme maintenant, alors que ça semble être une situation qui perdurait depuis un moment?
Oui, je tire la sonnette d'alarme parce que...
Monsieur le gouverneur, là on ne vous capte pratiquement presque plus. Si c'est possible de vous déplacer en même temps que vous essayez de parler, c'est un exercice qui n'est pas facile.
Oui, allô, je pense que là vous m'entendez très bien.
Voilà, c'est plus ou moins bien.
Oui, je disais donc que nous avons tenté plusieurs types de solutions, à savoir les dialogues sociaux. Nous sommes descendus plusieurs fois dans les Massissi pour tenter de faire rencontrer les leaders locaux entre Hutu, Hunde, Tutsi, etc., croyant que les gens vont se parler sincèrement. Mais nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de sincérité dans les dialogues entre les communautés, que ce sont plutôt les intérêts que les gens sont en train de voir. Tellement que le Nord Kivu a été une province où il y a eu beaucoup de rébellions. Et les gens ont vu comment on a accédé au pouvoir militaire par une rébellion qu'on a entretenue. C'est cela qui hante l'esprit de beaucoup de gens. Je voudrais même me permettre de créer un terme. Il y a un certain rébellisme, entre guillemets, qui se crée. C'est-à-dire une propension à faire la rébellion, parce que de là, on peut obtenir un poste dans un ou un autre domaine. Voilà l'analyse que j'ai pu faire, qui a motivé l'alerte que j'ai dû faire depuis 24 heures.
Alors, monsieur le gouverneur, on sait que vendredi dernier, ici à l'Assemblée nationale, il devrait y avoir la validation des mandats de cette députée de Massissi. Suite à une motion incidentielle, cette validation n'a pas eu lieu. Elle a été renvoyée à la commission PAJ de l'Assemblée internationale, cette situation aurait-elle un impact quelconque sur place, sur terrain, dans le Massissi?
Oui, des tireurs de ficelle, il y en a partout. Donc, je crois que cette question aussi devrait être traitée avec beaucoup, beaucoup d'attention. Parce que vous le savez, lorsqu'on visite l'histoire de cette province, il y a des populations qui, hier, étaient appelées des immigrés, d'autres autochtones. Mais avec la constitution de 2006, on a mis fin à ce débat. Mais, en interne, les débats continuent. Et c'est la raison pour laquelle lorsque vous entrez dans les territoires de Massissi, par exemple, qui aujourd'hui n'a pas de député du côté de Houndé, qui se considère vrai ou faux comme des autochtones attitrés de ce territoire, cela crée des frustrations. Entre-temps, lorsqu'on examine les causes qui ont amené à ce que les Houndé ne puissent pas accéder à un seul poste au niveau de ce territoire, on se rend compte très vite que, étant donné que c'est une communauté minoritaire, elle a aligné plus de 114 candidats, et les voix se sont dispersées autour de ces personnes-là, ce qui a fait qu'on a manqué probablement un candidat de territoire de Massissi. Donc tout cela constitue effectivement des foyers de tension à partir desquels, si on ne gère pas bien la question, eh bien, quelque chose peut éclater. Merci. Parce que maintenant, le Massissi est représenté aujourd'hui par une bonne partie des membres de la communauté Hutu, avec un Tutsi, avec l'absence totale des membres de la communauté Houndé. Donc voilà au moins quelques éléments d'analyse sur lesquels nous sommes en train de plancher pour voir si on ne peut pas examiner à fond cette crise, la creuser profondément de manière à trouver une thérapeutique appropriée.
Merci, monsieur le gouverneur. Professeur Bouendoua Elouga ici, vous êtes politologue et professeur à l'ISC Ouvira au Sud Kivu, directeur du Centre de Recherche et d'Études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Vous venez de suivre le gouverneur Julien Paluku. Professeur, comment vous analysez cette situation?
D'abord, je vais commencer par saluer et vraiment féliciter excellemment Son Excellence le gouverneur du Nord Kivu, que je connais très bien, et que vraiment je pense que l'analyse qu'il vient de nous livrer là bien montre très bien que les identités qui se jouent au Nord Kivu nous permettent de définir des enjeux qui dépassent totalement les cadres qu'on pourrait dire typiquement provincial. Et là, je pense que le gouverneur de la province du Nord Kivu se trouve écartelé entre une capitale excentrée, totalement inefficace à la réalité du terrain, mais aussi, comment dirais-je, un peu marchant sur les œufs entre des communautés qui ne s'entendent que pour se détruire et qui se détruisent pour ne pas s'entendre. Et je pense que là-dedans, on n'arrive pas sérieusement à comprendre que les enjeux de ces provinces qu'on appelle les provinces de l'Est, qui sont en fait des provinces totalement dominées économiquement, caporalisées militairement, sont des provinces, comment dirais-je, où l'autorité devrait se redéfinir dans le cadre d'une décentralisation, d'une décentration comprise. Mais là, je pense que le gouverneur se rend bien compte que les moyens dont il dispose pour affronter les vraies questions sont des moyens tellement dérisoires et assez aléatoires qu'il ne peut pas, je ne peux pas vraiment lui en vouloir pour cela, mais il est un tout petit peu prisonnier d'un système qui lui donne très peu de moyens pour faire face aux vraies questions.
Alors professeur, quand vous dites que cette question dépasse le niveau de la province, êtes-vous en train de dire que la province du Nord Kivu semble livrée à elle-même en abordant toutes ces questions?
Quand je regarde bien le Massissi que je connais bien pour avoir travaillé pendant très longtemps dans le Nord Kivu, je vois bien que c'est vrai, le Massissi comporte des communautés, les Houndé, les Nyanga, les Nyabisha, les Nande, les Chilenega, mais aussi quand même un véritable terroir, un territoire qui est au sud du Nord Kivu, et n'oublions pas que le sud du Nord Kivu, c'est aussi le nord du Sud Kivu, c'est aussi l'ouest du Rwanda, c'est aussi vraiment la charnière entre la forêt et la savane, entre les montagnes et la plaine, entre tout un tas d'identités qu'on oublie, qu'on essaie assez souvent de cacher, et qui, revenant à la surface, parce que le gouverneur vient de nous dire en fait que ces gens-là n'ont pas pu avoir une représentation qu'ils méritent, parce que je connais bien Burundi, avec leur dynamisme économique, politique et culturel, se retrouver à ce point non représenté, c'est quand même un peu quelque peu abracadabrantesque, je pense.
Alors, professeur, le gouverneur a fait allusion à certains politiciens véreux qui tireraient les ficelles. Peut-on allonger la liste jusqu'à certains pays étrangers qui en profiteraient?
Naturellement. Je pense que bon, les politiciens, c'est dramatique dans le Kivu, dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Les politiciens jouent toujours les rôles auxiliaires, voire ancillaires. C'est vraiment des politiciens qui sont ici, qui font de notre province, de nos provinces, un tremplin politique pour un pouvoir à Kinshasa. Une fois arrivé à Kinshasa, à la limite, les vrais problèmes qui découlent de la géographie et de l'histoire du lieu sont des problèmes qui sont derrière eux. Et j'ai comme l'impression que, bon, excusez-moi de rappeler le pauvre gouverneur, mais ce n'est pas vraiment pour le... Mais il doit se coltiner à des problèmes, en fait, qui sont délaissés par le pouvoir central et qui ne sont pas pris en charge par les autorités locales, les pouvoirs élus localement. Et n'empêchons pas, au fait, que pour ces... disons que pour cette question aussi, le Rwanda, naturellement, c'est sur le braise, et dans l'état, au fait, où on a pu recruter des gens à gauche et à droite, sans tenir compte du passé ou bien de l'avenir, le M23 sévissant contre vents et marées, nous nous retrouvons sincèrement dans une entité, dans une identité qui ne se retrouve pas, et localement, et nationalement, et culturellement, et idéologiquement, et politiquement.
Professeur, il y a Pierre Shindano-Koko qui nous écrit de Bukavu Sud Kivu qui dit « Je crois que le gouverneur du Nord Kivu vient d'évoquer un faux problème car les Congolais n'ont jamais eu la culture d'une haine tribale, à moins que cela ne soit fomenté par les politiciens en mal de positionnement comme c'est le cas de Masisi. »
On pourrait dire que bon, cette réaction de notre compatriote peut se comprendre à deux ou à trois niveaux. Mais moi, je n'irai pas jusque, en fait, à dire si vraiment ou non on doit tenir compte de ces argumentations. Mais la vraie question du Nord et du Sud Kivu, du territoire de Masisi, précisément, c'est vraiment écartellement à une sorte de délaissement. Et je pense qu'une décentralisation qui n'a pas pu aboutir, une décentration qui n'existe pas, une déconcentration qui est balbutiante, une sorte de non-vie politique accentue, en fait, les haines et les rancœurs. Et à cela, je ne sais pas comment on doit y répondre, mais je pense qu'il incombe aussi au pouvoir central de redéfinir les moyens d'exercer des politiques qui soient un peu plus proches du peuple et captant leurs aspirations et leurs velléités.
Professeur Philippe Biyoya, vous êtes politologue et professeur des relations internationales dans plusieurs universités de Kinshasa. Le professeur Bouindoua parle d'un délaissement pratiquement de la province du Nord Kivu de la part du gouvernement central. Vous avez suivi les arguments du gouverneur Julien Paluku. Quelle est votre analyse?
Bon, je commencerai, comme tout le monde, par saluer le gouverneur Paluku qui fait beaucoup de choses et je voudrais le féliciter du courage qu'il a de s'introduire dans ce dossier qui concerne la province qu'il dirige, mais d'où il a été certainement jusqu'ici exclu. Et je pense que c'est pour la première fois, à mon sens, que nous pouvons penser être en mesure effectivement de comprendre la situation et de mieux en fait l'aborder. Je suis d'accord avec le gouverneur lorsque il attire l'attention de la communauté nationale et de la communauté internationale sur en fait une sorte de répétition de gestes qui ne résolvent aucun problème. C'est que tout le monde a compris que dans une stratégie de pourrissement de la situation et où certainement le pays voisin qui instrumentalise les rébellions voudrait imposer une situation de fait de partition, les autres réagissent par une stratégie comme on appelle du faible fort. C'est que les autres communautés ont compris qu'il faut absolument entrer dans le jeu de celui qui veut la partition pour que ceux qu'on utilise pour partitionner ne triomphent pas, ne réussissent pas. Et ainsi, on fait pourrir la situation. Et comme de part et d'autre jusqu'ici, on donne une prime à la rébellion, à l'insurrection, à tout cela, mais c'est qu'on est dans une stratégie d'enlisement et de pourrissement. et tout ce qu'il dit et dont il prévient demande qu'effectivement qu'on sache que la situation ne s'assouplirait pas par des négociations diplomatiques autour de questions imprécisément définies, mais qu'il faut installer des administrations. Il faut donner au gouverneur le moyen d'être le maître de la province, d'administrer la province, parce que on ne peut pas dire qu'il n'existe pas de conflit intercommunautaire. On ne peut pas dire que c'est Paluku qui veut inventer le conflit intercommunautaire. Ça existe. Mais ça apparaît, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'administration. Et il y a carence totale de l'État dans un territoire qui a été fortement somalisé. Et il faut qu'on commence par cela. Je sais que, comme le membre du gouvernement l'a dit tout à l'heure, nous avons toujours tendance à vouloir, en fait, dans ces débats, de privilégier les malveillances des voisins. Mais le voisin exploite une situation qui nous échappe à l'interne, faute d'administration. Donc, je pense que c'est le bon cri. Je voudrais souhaiter qu'il soit entendu et que nous commencions nous-mêmes à travailler, à empêcher aux voisins d'instrumentaliser, d'exploiter des situations que nous ne savons pas gérer, que nous ne contrôlons pas.
Professeur Biyoya, on a quand même l'impression que jusqu'à un certain moment, évoquer les causes ethniques, tribales au Nord Kivu, c'était un véritable tabou.
Non, mais c'est pas tabou parce que le Nord Kivu pourrit jusqu'ici à cause de ça. Qui ne sait pas que depuis un certain moment, on parle d'une certaine communauté rwandophone au Nord Kivu et qui ne sait pas que lorsqu'on parle de balkanisation, c'est la province du Nord Kivu, en fait, qui est, en fait, en première ligne. Alors, et comment réagissent toutes les autres communautés qui ne se retrouvent pas dans le projet de ceux qui veulent balkaniser? Comment est-ce que les autres communautés vivent cette nouvelle conscience à l'intérieur du Nord Kivu de, en fait, la communauté rwandophone? Moi, j'ai travaillé avec l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Mais j'ai entendu là-bas des choses entre la géographie du Grand Nord et je ne sais pas de quoi là. Il y a des problèmes, ces problèmes existent, sauf qu'on n'en parle pas, mais nous devons les gérer. Le problème du Nord Kivu, c'était pas seulement le problème de la nationalité. Il faut d'abord que l'on crée les conditions de coexistence de ces communautés. On a créé des barrages, je ne sais pas encore quoi, mais il faut leur donner une existence formelle. Et lorsque le gouverneur évoque le problème de la représentation au niveau national, mais je crois que nous devons être sérieux. Nous devons être sérieux, il ne faut pas organiser toujours des élections pour que les élections entraînent des problèmes. On doit organiser des élections en s'assurant qu'on a donné les chances à tout le monde d'être représenté. Et la première représentation, elle doit être au niveau local. Elle doit être au niveau régional pour que, en fait, s'il y a une représentation au niveau national, qu'elle ait un sens, qu'elle représente l'ensemble, en fait, de la région, qu'elle ne fasse pas le triomphe d'une communauté, d'une certaine politique. Et je crois qu'en cela, le gouverneur a raison d'attirer l'attention de tout le monde parce que l'administration se fait en ce sens-là. L'État se gère dans ce sens-là. L'État doit être un bouclier protecteur. L'État ne doit pas être, en fait, celui qui, en fait, bénit toutes les causes qui amènent à l'éclatement, à l'implosion, en fait, du territoire.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, vous avez proposé une série de solutions. Nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Goma, au Nord Kivu.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, point focal de la coalition de l'opposition au Nord Kivu. Il faut d'abord saluer l'initiative prise par le gouverneur de province, Julien Paluku. Mais il faut reconnaître que sur les 4 propositions données par lui, 3 propositions me semblent être irréalistes et utopiques. Il n'y a qu'une seule proposition qui mérite l'attention. C'est le fait pour lui de demander la prise de conscience des filles et des fils du Nord Kivu. Procéder à l'arrestation de Bosco Ntaganda, Kazarama et tous ces autres au cadre du M23. Je crois que c'est irréaliste et utopique aujourd'hui pour le gouvernement de penser qu'il peut arrêter le cadre du M23, d'autant plus que le gouvernement, pour le moment, n'est pas en mesure de terminer la guerre entreprise par le M23. Le gouverneur propose que les responsables des communautés ethniques puissent procéder à la démobilisation des groupes armés. Moi, je me dis, depuis quand est-ce que les responsables des communautés ethniques du Nord Kivu sont les responsables des groupes armés au Nord Kivu? Il s'agit plutôt de quelques politiciens véreux qui tirent les ficelles. Et il faut retenir que les responsables des communautés ethniques n'ont ni la qualité, ni les moyens de procéder à la démobilisation. Ça, c'est une mission régalienne révolue à l'État.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, prenons les 2 propositions, les 2 pistes de solution et la réaction de Maître Lumbulumbu. Comment vous y réagissez?
Non, je salue effectivement la participation de Maître Lumbulumbu à ce débat. D'abord, la première piste,
c'est que je propose l'arrestation de tous les criminels. Pourquoi je propose cette piste? Parce qu'effectivement, à la suite de l'impunité à laquelle tout le monde fournit des observations pertinentes, les gens croient qu'ils sont autorisés à faire n'importe quoi en province du Nord-Kivu. Vous pouvez aller à Massissi, à Beni, à Lubero, vous êtes dans une colline, vous formez une rébellion et demain, vous revenez, on vous donne des galons, vous êtes colonel, vous êtes général. Donc moi je crois que pour mettre fin à ce genre d'ambition, il faut qu'on procède à l'arrestation de tous les criminels. M23 comme d'autres groupes, ça s'appelle l'arrestation. C'est la première chose. Pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on implique les communautés ethniques dans la démobilisation? Je prends l'exemple de tous ces mouvements qui existent au Rutshuru. Vous prenez le M23 dans les Rutshuru. Lorsque vous analysez les statistiques de la composition des troupes du M23, 80 à 90% des hommes de troupes du M23 sont composés essentiellement de la population de la communauté Hutu et que seulement 10% sont composés des membres de la communauté Tutsi. Et que donc, lorsqu'on voit l'histoire immédiate de cette province, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a des avancées et des rébellions, il y a une communauté qui se sert toujours d'autres communautés pour faire valoir une cause, et lorsque le temps de la gloire arrive, c'est cette communauté-là qui a toujours tiré les dividendes. Voilà pourquoi j'estime que il faut que je tire la sonnette d'alarme sur d'autres communautés pour qu'elles cessent de se faire instrumentaliser par une communauté qui a la solde d'un gouvernement étranger que tout le monde connaît et qui, finalement, amène tout le monde dans une entreprise meurtrière qui, finalement, a provoqué une population. Aujourd'hui, on est à 700 000 déplacés. Donc c'est pourquoi j'ai estimé que les communautés sont concernées, si elles prennent conscience qu'elles ont un rôle important pour démobiliser leurs hommes qui sont avec le M23 sans savoir pourquoi ils y sont, je considère que ça peut être une partie de la solution au problème.
Monsieur le gouverneur, on se souvient qu'avec le recul, le gouvernement de la RDC en son temps avait privilégié la paix à la justice. Aujourd'hui, ne peut-on pas dire que le gouvernement est finalement tombé dans son propre piège?
Non, de toute façon, un philosophe a dit que
Monsieur le gouverneur, excusez-moi, votre ligne se dégrade, si vous pouvez encore bouger un tout petit peu.
Oui, alors je pense que vous m'attendez.
Voilà, allez-y, je vous en prie.
Oui, je disais qu'il y a un philosophe qui a clairement dit que ceux qui ne se rappellent pas de leur histoire sont condamnés à les répéter. Et que donc, nous devons nous rappeler que nous avons commis à un certain moment un certain nombre d'erreurs. Il n'y a pas de honte à se le dire. Lorsque nous avons effectivement eu avec nous des hommes qui sont recherchés par la Cour pénale internationale. Maintenant que nous avons constaté que cela n'a pas été une solution au problème, on ne peut plus tomber dans ce piège. C'est pourquoi j'estime qu'on doit passer à la méthode forte, celle de l'arrestation de tous les criminels. Je crois que c'est la solution pour cette province du Nord Kivu. Je salue la contribution du professeur Philippe Bioya qui a estimé effectivement qu'il faut qu'on dote à la province les moyens qu'il faut pour que le pouvoir use de ses prérogatives régaliennes de manière à ce qu'on puisse prendre en charge toutes les questions. Parce que même si nous pouvons proposer des pistes de solutions, sans que le gouvernement central considère qu'il y a un problème au Nord Kivu et qu'il y a des moyens qu'il doit allouer à la province, eh bien, on ne va pas arriver à la solution. Il ne faudrait pas que l'attention du gouvernement central soit partielle par rapport à l'Est. Il faut que l'attention soit totale pour nous permettre de gérer efficacement toute cette crise que nous traversons dans la province du Nord Kivu.
Alors, Monsieur le Gouverneur, en un mot, je vous en prie, vous avez tout à l'heure dit dans votre précédente intervention que plusieurs dialogues avaient été amorcés, mais qui n'ont pas abouti à cause de l'hypocrisie, du manque de sincérité. Donc, à vous comprendre, le dialogue intercommunautaire en ce moment ne figurerait pas parmi les solutions.
Le dialogue doit se poursuivre parce que nulle part au monde on ne peut empêcher aux gens de se parler parce qu'il y en a qui sont toujours disposés à se parler. Mais je me dis, au-delà du dialogue comme seule piste de solution pour trouver des solutions à la crise de l'Est, il faut coupler au dialogue des méthodes fortes. Et je crois que je me fais comprendre très bien. Le dialogue seul ne peut pas résoudre
à des criminels qui errent ça et là, on doit coupler les dialogues avec ceux qui sont disposés à dialoguer à la méthode forte. Merci. Pour qu'on puisse traquer les criminels de manière à empêcher à ce que d'autres ne puissent croire qu'ils ont la propension à créer des rébellions pour se faire une passage de pouvoir dans une administration donnée.
Merci. Professeur Bouyendoa, comment vous réagissez aux deux propositions énoncées par le gouverneur Julien Paluku, arrêter tous les criminels et associer les communautés à la démobilisation des troupes? Comment vous réagissez à ça? Professeur Bouyendoa, voilà, nous avons quelques difficultés, la réalisation va le retrouver. Professeur Bioya, est-ce que vous pouvez répondre à cette question?
Oui, moi je pense, contrairement à l'avocat qui est intervenu là, que les propositions du gouverneur ne sont pas réalistes, parce que je vous ai dit que moi je suis content de ce que le gouverneur se présente comme désormais acteur dans la recherche de solutions en fait à la situation de l'Est. Parce qu'il a manqué jusqu'ici un acteur au plan local qui a la situation, qui a la compréhension de la situation et qui peut effectivement problématiser comme il se doit. Parce que jusqu'ici, on a géré la situation de façon télégraphique. Alors, je crois tout ce qu'il a dit, qu'il dise qu'on peut mettre les communautés à contribution pour décourager les groupes armés, mais il a donné les raisons, parce que ces groupes sont en fait des groupes tribaux. Hein, c'est des ethnies des tribus. C'est une proposition. Il n'est pas dit que c'est lui qui doit faire nécessairement ça. Tous ceux qui cherchent à ce que la situation soit pacifiés peuvent considérer ça comme des pistes à partir desquelles on peut créer en fait une solution. Il en est de même de l'impunité. La communauté internationale demande qu'on arrête ces criminels, qu'on les sanctionne. Mais comment cette proposition peut devenir réaliste? Donc il ne faut pas à la fois intervenir dans le débat simplement pour essayer de tourner en dérision des propositions qui sont des propositions intelligentes et très lucides dans la recherche de la solution. Parce qu'il faut savoir comment on gère des conflits. Le problème du Nord Kivu, jusqu'ici, en fait, pétine pourquoi? Parce que tous ceux à qui nous demandons même de nous aider à solutionner ce problème n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe exactement. Et vous verrez que dans la description que le gouverneur fait, mais il y a de ces actes, de ces gestes que nous-mêmes nous posons dans la façon avec laquelle nous abordons avec négligence une situation grave qui fait que la communauté internationale ne nous suit pas et nous considère comme des gens qui racontent des histoires. Or, pour une fois, là, nous avons des pistes. Moi, je travaille sur cette question et je connais la pertinence et je comprends la pertinence de ces approches. Il n'y a rien d'irréaliste dans toutes les propositions qu'il a présentées. Mais il faut de la volonté pour que cela se fasse.
Professeur, le gouverneur Julien Paluku propose également comme troisième piste de solution que les quelques éléments qui vont être récupérés au sein du M23 doivent être envoyés dans les centres de rééducation en 2009. Dit-il, on a intégré les éléments CNDP sans les former. Faut-il envisager cette option ou les traduire en justice?
D'abord, il faudrait savoir ceci, que nous ne pouvons pas traiter les rébellions d'aujourd'hui comme s'il n'y a jamais de rébellion dans ce pays. Pourquoi dans les années 60, on n'a pas composé avec des rébellions? On n'a pas récompensé des rebelles? Et pourquoi aujourd'hui, il faut que même des gens qui prennent des armes contre la République, on appelle des insurgés, on les monte en grade, on les réintègre dans l'armée? Mais c'est qu'on détruit même les principes de la République, on détruit les principes de l'État, on détruit même l'avenir. Il y a ça. Alors, puisque nous devons réfléchir à partir de cette background, mais nous savons que si jamais, l'option c'est de les prendre, mais alors il faut les traiter comme il se doit en les éloignant de lieux là-bas. Mais sinon, si nous pouvons être courageux et patriotes pour condamner les gens, ceux qui commettent des erreurs, ceux qui font du mal à la République et qu'on les punisse, mais je pense que dans l'amour en les punissant, il faut en fait qu'on les condamne, qu'on les mette où ils vont aller réfléchir. Mais ce qui manque, c'est en fait à la fois du patriotisme et le sens de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, nous gérons en fait l'aide de la République comme si en fait ça ne nous appartenait pas et que ça, les générations futures seront d'accord avec nous. Merci. Et c'est comme si aussi la communauté internationale a besoin plus de nous voir apathiques, impuissants et dans des attitudes d'hypocrisie comme en fait le gouverneur l'a dit là. Donc il faut que ça change. Si nous aimons notre pays et si nous voulons l'intérêt du pays, la communauté internationale ne viendra pas mettre l'intégrité si nous-mêmes nous ne travaillons pas l'intégrité. Les armées neutres internationales ne viendront pas restaurer l'intégrité du pays si les Congolais ne sont pas à l'ouvrage.
Merci. Merci, professeur Biyoya. Professeur Bouyendoa, est-ce que vous nous suivez? Vous êtes en ligne?
Oui, je suis en ligne. Excusez-moi de m'être un peu perdu. On m'a perdu pour le moins.
Voilà, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Et dit Ndongue à Bukavu, dans la province du sud Kivu. Les malheurs qui secouent non seulement la province du nord Kivu, mais toute la RDC en général, nécessiterait un dialogue national qui aboutirait à la création d'une commission vérité et réconciliation où tous les participants donneraient les pistes de sortie de cette grave crise qui n'a que trop duré.
Réaction, professeur.
Moi, je reste sur la ligne Nyerere sur cette question-là. Un ennemi nous attaque, il utilise les moyens, eh ben, on le boute dehors et on arrive vraiment à régler la question. Mais en fait, je déplore toujours que les gens qui sont venus avec l'AFDEL, après tout un tas de vagues de rébellion, on n'a jamais pu dire que ces gens-là avaient porté les armes contre la République et que c'était des factieux, et les factieux, on les traitait d'une manière ou d'une autre. Je pense que nous sommes en train vraiment d'assister à la mort lente et pratiquement inéluctable de notre État, parce que tout simplement, on est dans l'impuissance de punir les gens qui prennent les armes contre la République. Les dialogues, les conciliabules, moi, je dirais tout simplement que c'est la marque même de notre faiblesse, parce que nous ne pesons plus ni économiquement, ni politiquement, ni culturellement, ni idéologiquement. Donc du coup, on se retrouve n'importe quel homme ou femme lettre prend les armes, et eh ben, on est obligé de négocier avec. Moi, je vous parle là juste en face du Burundi. Je peux vous assurer que dans ces pays-là, dans les autres qui sont en train un tout petit peu de nous agresser, eh ben, les rébellions, on ne négocie pas comme ça facilement. On peut le voir au Rwanda, on l'a vu. En Tanzanie, on l'a vu. En Ouganda, on ne négocie pas avec les rebelles. Mais nous, c'est une culture de se mettre à les négocier, les sommets en sommets. Et moi, je pense sincèrement qu'il faut qu'on arrive un moment à se dire, niet, nous poursuivons les agresseurs. Eh ben, on se bat contre eux. Si nous n'y arrivons pas, alors là, nous désarmons. Mais alors là, le gouvernement prend ses responsabilités et ça doit se savoir quand même.
Professeur Bouyendoa, en ce qui concerne la situation humanitaire, le gouverneur Julien Paluku l'a qualifié de très préoccupante. 700 000 déplacés, dont 300 000 nouveaux dus à la guerre déclenchée par le M23. Finalement, on a, pour certains observateurs, l'impression que, comme on a dit, que la province du Nord Kivu semble se débattre seule, et pourtant il y a un gouvernement, qui a un ministère qui s'occupe de ces aspects.
Je reviens du Nord Kivu, j'ai passé mon week-end dernier, j'étais à Goma et dans les environs. Je dois vous avouer que c'est vrai, la situation est préoccupante. Heureusement que le gouvernement du Nord Kivu connaît très bien la situation et que vraiment c'est un véritable, je ne sais pas comment il doit se débrouiller, la situation est tellement critique que, bon ben, c'est vrai qu'on compte beaucoup sur l'humanitaire, mais il faudrait que notre pays aussi cesse de dormir à partir de Kinshasa, parce que les provinces de l'Est sont des provinces pratiquement, presque délaissées. Moi, hier, j'étais aux environs des Kibumba, je peux vous assurer que, en faisant des petites enquêtes, on a l'impression que les gens ont totalement oublié tout ce qui peut venir de la capitale et qu'ils ont désespéré. Bon, je ne sais pas comment faire, mais il faudrait un sursaut quand même, c'est la patrie en danger. Un danger mérite autre chose que des discours alambiqués à partir d'une capitale exfoncée et pratiquement attrape-tout.
Monsieur le gouverneur Julien Paluku, il y a certes quand même certaines provinces qui se sont mobilisées pour contribuer à la situation humanitaire. Dites-nous un mot sur cet aspect.
Oui, effectivement, comme vous le savez, en octobre dernier, nous étions tous à Kinshasa et le gouverneur a dit que il ne peut pas passer sous silence ce qui se passe à l'Est. C'est la raison pour laquelle ils ont contribué à raison de 1000 dollars minimum par province. Nous avons réuni autour de ça 35 000 dollars pour devoir assister 300 000 personnes. Mais vous comprenez que c'est insuffisant. C'est pourquoi j'ai dit que la communauté, aussi bien nationale qu'internationale, est interpellée, parce que ça fait 3 mois que ces déplacés n'ont pas à manger. Et c'est ainsi qu'ils se débrouillent à gauche, à droite. Et si on laisse la situation pourrir comme elle l'est aujourd'hui, ça sera la catastrophe. Mais je crois que en amont, finalement, il faudrait quand même qu'au niveau de la République, on puisse comprendre qu'à l'Est, il y a une crise. Et qu'à la base, il faut que l'on songe à construire notre système de défense. pour que des aventuriers ne viennent de toutes parts, ni de l'extérieur comme de l'intérieur, pour venir provoquer cette vague de population. Je crois que c'est important qu'on comprenne qu'on peut bien parler de la macroéconomie, on peut bien parler d'autres politiques au niveau national. Si on ne résout pas la crise au niveau de l'Est, le pays peut s'arrêter à un moment donné et toute politique qu'on est en train de faire à Kinshasa n'aura plus de sens. C'est le sens même de mon interpellation, c'est le sens même de mon alerte, c'est le sens même de mon SOS, pour que l'attention vis-à-vis de l'Est ne soit pas une attention partielle, que ça soit une attention totale pour qu'on termine avec tous ces petits bandits qui distraient la République et qu'on amorce finalement le développement, parce qu'on ne doit pas rester en train de prendre en otage l'ensemble de la République à la suite d'une maladresse de certaines personnes qui ne savent pas prendre leurs responsabilités pour que nous arrivions à construire un système de défense efficace pour un grand pays comme la RDC.
Et entre-temps, monsieur le gouverneur, 700 000 déplacés, comment vous vous en sortez? Comment vous vous débrouillez pour les prendre en charge?
Oui, je ne pense pas être mieux indiqué pour répondre à cette question. Peut-être les autres pourraient bien m'aider à y répondre, mais au moins, nous nous battons tant bien que mal. Avec la communauté internationale, évidemment, il y a eu des budgets qui étaient prévus. Comme vous le savez, ils sont à la fin de l'ère exercice budgétaire. C'est ce qui crée ce flottement. Et ce flottement est très, très dangereux si, au niveau central, on ne prend pas à charge cette question. Donc, je crois que l'interpellation actuellement concerne le gouvernement central qui doit gérer la transition par rapport à la reprise de l'aide qui devra commencer au mois de janvier 2013. Merci. Si la solution n'est pas trouvée pour que les gens rentrent chez eux avant à l'année prochaine.
Alors, monsieur le gouverneur, on va déjà terminer l'émission. Est-ce que vous pouvez lancer un appel à la paix, à toutes ces communautés qui vous suivent, à la paix, à la réconciliation, en guise de conclusion?
Oui, mon message, c'est un message destiné à tous les enfants du Nord Kivu pour dire que si nous nous mettons dans la logique de la guerre, il y aura des gagnants et des perdants. Mais si tous nous nous inscrivons dans la logique de la paix, tous nous allons gagner parce que chacun va vaquer à ses occupations. C'est un message important. Et le deuxième message, c'est que les enfants du Nord Kivu doivent cesser de servir les intérêts des pays étrangers dont on connaît les objectifs. La balkanisation n'est pas une question qui doit être éludée. Beaucoup de gens veulent que cette province soit une province qui est à la solde des pays voisins, mais que les Congolais comprennent que ce n'est pas de cette manière qu'ils vont devoir retrouver le développement. Si nous nous accrochons à la solidarité nationale, si nous nous accrochons aux valeurs républicaines de ces pays, eh bien, nous pouvons retrouver nos besoins satisfaits lorsque nous sommes ensemble en tant que Congolais. Donc, que les gens du Nord Kivu cessent de croire que c'est du Rwanda que viendra la solution pour leurs problèmes. Merci. Les problèmes congolais seront résolus par nous-mêmes et nous sommes à même d'y trouver des solutions et non nous faire des marionnettes, des girouettes de certaines personnes qui sont à mal des positionnements dans leur pays.
Alors, le même message brièvement, mais en swahili, parce qu'il y a quand même beaucoup de locuteurs swahili.
Tunaomba kwa wananchi wote wa Nord Kivu kwa kukubali ya kwamba hakuna mtu ambaye atatuletea amani na usalama, ni sisi wenyewe. Kwa hiyo watu ambao wako Masisi, Walikale, Ruchuru, Lubero, Butembo na Beni waweze kukubali ya kwamba hii vita ambayo inaletwa inatoka nje na ni watu ambao kazi ya kwao ni kuleta vurugo kusudi waweze kupora mali ya Kongo. Kwa hiyo natoa mwito kwa watoto wote wa Nord Kivu ili tukamatane mkono kwa mkono ili tusije tukaingiliwa na adui ambayo kazi yake ni kuweza kutusambaza.
Merci monsieur le gouverneur. Professeur Bouendwa, un mot en guise de conclusion.
Oh, j'apprenais en latin civis pacem para bellum. Ça voulait dire tout simplement que si tu veux la paix, il faut préparer la guerre. Ningi pendela watu wa dieu kwamba kuna kweli ni kulinda nchi yetu, ni kupigana vita, na kupigana vita sababu tunazo, uwezo tunao, na lazima pia tuwe na nia. Na kwa hiyo sema kweli, je pense qu'on peut arriver tout simplement à défendre la patrie, le peuple, la république et les grands idéaux. Tout simplement, nous disons qu'on ne peut pas être les valets d'aucun système ou bien d'aucune culture.
Merci, professeur Bouendwa. Professeur Philippe Iyoya, conclusion.
Ma conclusion, comme a dit le gouverneur, pour l'appuyer, il faut que le gouvernement central fasse de la situation à l'Est la priorité des priorités. Je pense que l'avenir d'un pays dépend de sa capacité d'assurer la sécurité de son territoire et de ses populations, et non pas nécessairement des relances économiques. La puissance d'une économie n'a de mesure lorsque celle-ci est un moyen de soutien à la politique de sécurité. Nous ne réussirons pas en diplomatie parce que nous semblons compter sur le pays étranger si on ne voit pas, nous, la capacité de nous défendre par nous-mêmes et de protéger notre territoire par nous-mêmes.
Merci,
et...
professeur Biyoya. C'est par vous que nous terminons cette émission. Bonne suite et programme sur la Radio de la Paix.